Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Au moment même où le livre blanc de la sécurité intérieure est en cours d'élaboration, censé bâtir la police du 21e siècle, les policiers sont sur la brèche, leurs conditions de travail sont de plus en plus difficiles, le climat de plus en plus tendu, on ne cesse de dénoncer les violences policières et l'impunité dont jouiraient les forces de l'ordre. Et puis il y a la police municipale armée qui gagne du terrain et la gendarmerie dont on dit qu'un syndicat de police s'appellerait à son démantèlement. Alors que fait la police? On en débat avec nos quatre invités, tous policiers ou proches de la police, mais pas forcément d'accord pour autant. Alors je vous les présente tout de suite. Nicolas Pucheux, 15 ans dans la police, police secours, compagnie de sécurisation et d'intervention, brigade anticriminalité de nuit, unité de sécurisation des transports en commun franciliens. Vous êtes allé jusqu'au grade de brigadier chef de police. Vous êtes aujourd'hui secrétaire départemental adjoint Paris UNSA Police. L'UNSA Police, c'est l'un des trois plus importants syndicats policiers. Alors, on dit que le climat serait de plus en plus tendu entre la police et la population. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Mais en effet, depuis un an et demi, la France est en proie à des conflits sociaux extrêmement intenses, où la police a été mise à contribution et a servi finalement de bras armés à l'exécutif pour tenir la République, hein, parce qu'à un moment donné, on n'était pas loin que la République ne vacille. Et ça a créé un gros clivage, une grosse fracture avec la population, en effet. Et aujourd'hui, on en est arrivé à un climat réellement délétère, nauséabond entre la population et la police.
Noam Hanoir, vous avez 8 ans à la direction des renseignements de la préfecture de police de Paris. Dans votre viseur, il y avait Al-Qaïda, les premières filiales djihadistes vers la Syrie, l'islam radical, donc filature, surveillance, écoute téléphonique. Vous avez raconté tout cela dans un livre qui a fait polémique à sa sortie en septembre 2019, « La France doit savoir », aux éditions Plomb. Vous êtes également délégué du syndicat Vigipolice. Le climat est de plus en plus tendu, vous confirmez ?
Évidemment, en fait, ce qu'on reproche aujourd'hui à la police, c'est d'appliquer de façon très stricte les consignes qui lui sont données, notamment sur Paris et sur la Petite Couronne, par le préfet de police, dont on dit qu'il gouverne, entre guillemets, ou qu'il assure la sécurité d'une main de fer. Maintenant, on est quand même à un moment clé, puisqu'aujourd'hui a eu lieu justement le compte-rendu de l'enquête parlementaire qui est consécutif, vous savez, à l'attaque de la préfecture de police, dont on sait aujourd'hui de façon sûre qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. On a également cette préconisation, vous l'avez dit effectivement, d'un syndicat de police, mais pas n'importe lequel, le syndicat des commissaires de police, qui appelle à la dissolution de la gendarmerie. Donc vous voyez, on est quand même dans une phase, je dirais, de l'histoire sans précédent, du point de vue de notre institution. Et notamment, je dirais que les relations avec la population ne sont qu'un volet de cette déconfiture, je dirais, de tous les aspects, que ce soit des aspects concrets sur le terrain, mais également des aspects relationnels, institutionnels, lié à ce que devient aujourd'hui la police nationale, dans toutes ses dérives.
Lionel Tourtier, vous n'êtes pas policier, vous êtes cadre à la retraite, mais vous êtes l'un des premiers adhérents de l'association Uniforme en danger, qui alerte depuis 3 ans sur la dégradation des conditions de travail dans les métiers de la sécurité publique, le climat de plus en plus tendu dans lequel se trouvent les personnes en uniforme et le nombre de suicides, dans la police en particulier. Alors, vous aussi, vous constatez cette tension entre la population et la police?
Alors, depuis 2005, hein, vous rappelez Charlie, lorsque il y avait cet enthousiasme vis-à-vis de Fort Police, et aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas dire que
2015,
les choses,
vous voulez dire.
Les choses se sont pas arrangées, et elles se sont pas arrangées pas simplement au niveau des forces de police elles-mêmes, mais aussi de tout ce qui a trait à leur environnement familial, parce que on a chez nous, dans notre association, des membres des forces de police et des femmes notamment qui se plaignent de harcèlement, d'être suivies à leur domicile, d'avoir leurs enfants aussi menacés. Donc la dégradation, elle a pris une tournure de violence qui est quand même extrêmement préoccupante pour les forces de l'ordre et leurs familles, quoi.
Jean-Pierre Colombi, ex-commandant de police, 10 ans au stup, puis chef de groupe chargé des atteintes aux personnes à Marseille, ensuite commissariat de Neuilly-sur-Seine, puis de Boulogne-Billancourt et de Paris 16e. Vous êtes également impliqué dans la vie syndicale. Vous avez été porte-parole de l'association de police UPNI, l'Union des policiers nationaux indépendants, une association apolitique et asyndicale de policiers en colère qui travaille à l'amélioration des conditions de travail de tous les salariés du ministère de l'Intérieur. Depuis, vous êtes comédien. Vous jouez notamment dans Othello, Hamlet et Contes d'hiver de Shakespeare au Théâtre du Nord-Ouest. Et vous êtes l'auteur de Demain peut-être aux éditions de l'Harmattan. Ce sont les derniers instants d'un communard. Le climat, donc, de plus en plus tendu, vous le confirmez, vous aussi ?
Oui, je crois que ce serait tenir une langue de bois, d'avoir une langue de bois, que de dire le contraire. Mais ce qui est problématique, c'est qu'on, malheureusement, on ne peut que conclure au fait que ça a été provoqué, que cette situation a servi à détourner l'attention d'une véritable crise sociale qui est née il y a maintenant un an et demi, qu'on a qualifiée de manière un peu synthétique, même raccourcie, de gilet jaune, mais qui était le révélateur qu'une frange notable de la population avait besoin de se faire entendre par rapport à des décisions qu'on essayait de lui imposer. Et finalement, ça a arrangé pas mal de personnes que le débat se résume à une opposition police-citoyenneté, ce qu'on a d'ailleurs très souvent, au travers de cette association, eu de cesse que de dénoncer en disant, attention, en lançant des signaux d'alarme, que cette situation ne pouvait qu'avoir des conséquences néfastes pour les propres policiers, pour les fonctionnaires de police qui étaient à la fois confrontés à ça au cours des manifestations, mais aussi de manière plus général dans le cadre d'un rapport police-citoyenneté.
Alors commençons tout de suite par ces violences policières. Le gouvernement les nie, mais leur dénonciation est devenue récurrente. Alors comment les expliquez-vous comment lutter contre, Nicolas Pucheux? C'est quoi le problème? C'est pas seulement les petites caméras de vidéo dont aujourd'hui tout le monde est équipé et qui permettent de filmer effectivement les cas de violences policières.
Le problème, c'est qu'il faudrait déjà sortir de cette vision manichéenne des choses où on pourrait penser qu'il y a d'un côté le pauvre peuple, les pauvres gilets jaunes, et de l'autre, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, ces salauds de flics. Parce qu'en fin de compte, un flic, c'est d'abord un citoyen, c'est bien souvent également un gilet jaune. Par gilet jaune, j'entends classe moyenne, prolétaire, ce que vous voulez, enfin quelqu'un qui ne subsiste que par le biais de ses revenus, qui n'a pas de revenus annexes, c'est bien souvent quelqu'un qui a du mal à joindre les deux bouts. Et ce qui est dramatique dans cette situation, c'est qu'on a opposé des policiers, donc qui font partie du peuple et qui subissent, qui traversent les mêmes problématiques que le peuple, précisément, on les a opposés au peuple pour finalement, le disait parfaitement Monsieur Colombiès, pour résoudre un conflit, une crise politique. Sauf que là, on ne pouvait pas répondre comme ça en usant de la force publique. Ce n'était pas une réponse autoritaire qu'attendait le peuple. C'était une réponse sociétale d'amélioration.
D'ailleurs, on a vu des slogans « Rejoignez-nous ». Il y avait ça sur les banderoles.
On s'est souvent trouvé pris entre le marteau et l'enclume. Parce qu'il n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui d'être fonctionnaire de police.
Néanmoins, il y a des violences. On sait qu'il y a des caméras, que quasiment toutes les violences aujourd'hui sont filmées. Et pourtant, il y en a toujours. Comment l'expliquer, Jean-Pierre Colombiès ?
Et le plus naturellement du monde. C'est-à-dire que lorsque vous laissez s'installer une situation de crispation, d'hypertension, d'hyperviolence, que vous laissez monter une pression insupportable à tous les niveaux, à un moment donné que vous avez une confrontation directe qui arrive, et bien évidemment, il est impossible que tout se passe proprement. Je veux dire, bien malin, celui qui pourrait avoir la prétention de considérer qu'une manifestation de l'ampleur qu'on a connue, des manifestations, ça a quand même duré un an et demi, bien malin qui pourrait avoir la prétention d'instaurer un système de maintien de l'ordre qui soit nickel. Si vous rajoutez à cela, je dirais, d'ailleurs c'était dénoncé par des organisations syndicales à une certaine époque et également par l'association, des problématiques d'organisation, d'encadrement de ces manifestations. Pour faire simple, quand vous agglomérez toutes sortes d'effectifs qui ne sont pas toutes nécessairement formés au maintien de l'ordre, ben, nécessairement vous avez des problèmes de coordination et, je dirais, de bon sens de l'action policière. Je dirais, ça n'arrive pas, des problématiques de cet ordre-là n'arrivent pas dès lors que vous avez en face de manifestants des forces de police habituées, entraînées à gérer ce genre de situation. C'est beaucoup plus complexe quand vous agrégez des polices périphériques de petite couronne, de services qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et de fait, vous ouvrez la porte, mais alors grande ouverte, à ce qu'il y ait des problématiques dont les premières victimes peuvent être effectivement les policiers, mais aussi les manifestants, parce qu'ils sont pris parfois entre deux feux. Vous avez des activistes dangereux, très décidés, très organisés, qu'on appelle les Black Blocs, enfin le système Black Bloc, vous en avez d'autres aussi, vous avez des identitaires, mais vous avez aussi des gens qui étaient pris dans la nasse et qui ont été mêlés à des actions d'envergure, de hyper violentes, mais qui n'y étaient strictement pour rien.
C'est ce qui est dénoncé en permanence. À chaque fois qu'il y a eu des manifestations, on a dit, tout à coup, les manifestants se retrouvent dans la nasse et ils commencent à avoir des...
Il suffisait d'aller assister à ces manifestations, même ne serait-ce qu'en tant que spectateur, ce que j'ai fait, parce que je voulais savoir un peu de quoi on parlait, de quoi il en retournait. Et j'ai vu quoi ? J'ai vu, comme tout un chacun aurait pu le constater, des familles, des couples, des retraités, même des enfants, ce qui n'était pas très malin de mon point de vue, mais enfin bon, il y avait tout. Et puis vous aviez des activistes très bien organisés qui savaient exactement ce qu'ils faisaient, qui étaient dans la foule et qui faisaient en sorte de créer ces points de fixation, ces points de crispation auxquels à un moment donné, il fallait bien répondre. Et de fait, lorsque vous chargez, lorsque les forces de police ont pour mission de charger et de dégager, c'est impossible d'avoir une action, entre guillemets, propre.
C'est un manoir ?
Je dirais qu'à l'analyse, effectivement, je suis plutôt d'accord, mais je peux constater, après 18 mois finalement de crise sociale, l'errance du gouvernement, l'absence totale d'idées, puisque vous savez, il y a quelques mois, j'ai été témoin justement de toutes, et acteur d'ailleurs, de tous ces débats autour de ce qu'on avait appelé le fichier anti-casseurs. C'est-à-dire que le Premier ministre en personne avait pris la parole à l'antenne, relayé par toutes les grandes chaînes d'information, en disant, ça y est, les services de renseignement ont été à même d'identifier les black blocs, les casseurs, on va les neutraliser en les assignant à domicile les jours de manifestation, en les obligeant à la pointer au commissariat, ce qui va permettre justement aux manifestants pacifistes de pouvoir, entre guillemets, de pouvoir garantir en gros la liberté de manifester de ces personnes. Le fichier anti-casseurs est né, quelques mois après, aucun changement, ou peut-être une aggravation justement des violences policières à l'occasion des manifestations, mais ce ne sont pas les seuls. Et donc, naturellement, si vous voulez, le gouvernement ne répond pas aujourd'hui face justement à ces échecs, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que le débat sur le fichier anti-casseur a duré 3 semaines. Donc, il a été voté par la majorité, retoqué au Conseil constitutionnel. À un moment, sur le terrain, l'efficacité et la légitimité justement de cette action sont, si vous voulez, ça a quand même un coût derrière. Et puis, il y a quand même une... mais légitimité de la part justement des manifestants à demander des comptes au gouvernement. Et aujourd'hui, si vous voulez, le débat est totalement inexistant. Ensuite, les violences policières, ce ne sont pas que les manifestations. On a le cas, par exemple, récent de Cédric Chouviat, oui, qui a été effectivement malencontreusement tué au moment d'une interpellation. Donc on a un texte de loi qui va être voté en mars, justement pour l'interdiction du plaquage ventral. Donc on voit bien qu'il y a en gestation un certain nombre de problématiques qui résulte justement, en général, de l'emploi de la force publique et de la coercition. Et vous savez, après, le dernier point que je vais souligner très rapidement, c'est celui de la régulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'institution IGPN ne fonctionne pas. Pas plus tard qu'hier...
C'est l'inspection générale des services.
Oui, la police des polices, globalement, et qui concerne également juste la police. Parce que, si vous voulez, dans l'opinion publique, pour répondre à votre première question, je pense que la gendarmerie, la police municipale, les douanes n'ont pas les mêmes problèmes que la police nationale, du point de vue, en tout cas, des relations avec le public. Donc, l'IGPN ne fonctionne pas. Hier, si vous écumez les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a le cas d'un jeune garçon qui a reçu une munition de LBD en pleine mâchoire, donc, dont la mâchoire a été fracturée, il a perdu 5 dents. Sa vie et sa capacité, justement, d'autonomie ont été altérées par cet incident. L'IGPN écrit noir sur blanc, nous n'avons pas été en mesure d'identifier l'auteur du tir, et donc, classement sans suite de la plainte. Donc, la personne n'obtiendra jamais justice, tout comme la famille de Zineb Redouane, tout comme cette Geneviève Leguay à Nice et peut-être la famille de Steve Canisso. Si on considère que la mutation d'un chef de dispositif est une justice, écoutez, j'ai une définition de la justice qui est plus ambitieuse que celle-ci. Et effectivement, on se rend bien compte que c'est un chantier pharaonique et qu'on n'en est qu'au début, si vous voulez. Voilà.
Et les policiers qui ne mettent pas les numéros, qui n'affichent pas le numéro qu'ils sont censés afficher ? Jean-Pierre ?
Enfin, moi, personnellement, sur ce sujet, je trouve que c'est un faux débat. Pour rejoindre un peu l'idée, l'esprit de ce qui vient d'être dit, c'est qu'il est vrai que depuis plus d'un an maintenant, on est confronté à un double langage. C'est un peu le langage du pompier incendiaire. C'est-à-dire on a eu droit à des prises de parole gouvernementales plus que maladroites qui ont encouragé une crispation vraiment, vraiment forte de vis-à-vis de la population. Et puis en face, la seule réponse qu'on avait, c'était « Tiens, allez, on envoie les régiments de policiers qui vont nous régler tout ça ». C'est pour moi, et pas que pour moi du reste, hein, c'est pas raisonnable. C'est tout simplement pas raisonnable ni cohérent. On ne peut pas régler cette problématique sociale, elle est profonde, uniquement en y répondant par la force, en tout cas par la fonction publique, par les policiers, qui, je le rappelle, sont touchés par toutes les réformes. Ça a été souligné, effectivement, les policiers de base et même de grade intermédiaire, je prendrais un petit peu à part une forme de caste policière qui, elle, est indépendante de ce qui concerne de toutes les préoccupations de base, mais il y a véritablement une problématique de discours et de philosophie d'emploi. C'est de ça aussi surtout qu'il faut parler. Qu'est-ce que l'on veut faire de la police dans ce pays ? Aujourd'hui, c'est un vrai débat. Quelle est la philosophie d'emploi ? On a la police qu'on mérite, globalement, quelque part. Dès lors que l'on met en place un pouvoir qui a cette attitude-là, il ne faut pas s'en plaindre.
Quand vous dites on a la police qu'on mérite, ça veut dire que la population mérite ou que le gouvernement mérite ?
Mais c'est un peu des deux.
C'est la même chose.
C'est un peu des deux. Dès lors que vous mettez en place des gouvernants qui tiennent un discours très radical. Vous savez, j'ai 35 ans de police derrière moi. J'ai eu 35 ans de police, à peu près. Je fais l'économie d'une année ou deux. J'ai vu une succession de politiques sécuritaires qui étaient aussi inopérantes les unes que les autres. Et il fallait régulièrement, tenir la société uniquement par le bon vouloir et la bonne volonté des fonctionnaires de terrain. À un moment donné, ce système ne tient plus. Parce que vous ne savez plus, de toute façon, quel est le sens de votre métier. Et ça rejoint le débat qu'on va évoquer sur les suicides et le mal-être dans la police. Dès lors que vous ne savez plus quel est le sens de ce que vous faites, bien nécessairement, ça mène, un, sur du mal-être, donc des dépressions et des suicides, sachant qu'il y a aussi pas mal de dépressions, et puis le rapport avec la citoyenneté, avec la population. Lorsque vous avez des policiers, enfin des politiques, pardon, qui vont de la police de proximité, qui réinventent l'eau tiède, à une police de résultats hystérique, et ensuite à une police absolument, une politique sécuritaire qui est indéchiffrable, plus personne n'y comprend rien, et des policiers comme de la citoyenneté. Il faut écouter ce que veulent les gens en termes de police. Ils ne demandent pas ce qu'il n'y ait plus de police, y compris ce que l'on appelle les gilets jaunes. Ils ne demandent pas ça du tout. Ils demandent au contraire une police avec laquelle on puisse dialoguer, qui soit des vrais partenaires et pas simplement des uniformes bleus, casqués.
Il y a un livre important qui a été publié il y a quelques années, c'est « De la police en démocratie » de Sébastien Rocher, où il faisait remarquer que la France est de tous les pays d'Europe celui où la population a le moins confiance dans sa police. Toute classe sociale confondu.
Ça demanderait à être évalué, je pense.
Oui, mais...
oui ça ne m'étonne pas du tout, si je puis me permettre, parce que, si vous voulez, vous regardez même le système d'assermentation, en fin de compte, des policiers français, globalement, il n'est pas autant au point, je dirais, que, par exemple, que celui des pays anglo-saxons. Moi, je suis allé au Royaume-Uni, déjà, tous les policiers ne sont pas armés, parce que le recours, justement, à la force est quand même beaucoup moins évident et systématique qu'en France. En France, on patrouille à deux, parce qu'il faut effectivement un partenaire ou un collègue pour intervenir en protection, mais également pour témoigner, parce que la parole d'un seul policier ne suffit pas justement à établir une certitude, alors que au Royaume-Uni, quand un policier, j'ai déjà assisté à une verbalisation justement au Pays de Galles, où un policier a dit à une personne « vous êtes en excès de vitesse » ou « en vitesse excessive », même si la vitesse n'était pas mesurée, le policier était habilité à dresser un procès-verbal pour vitesse excessive sur une simple constatation en disant « monsieur, vous roulez trop vite dans cette ruelle ». Vous voyez, en France, il faut un appareil, il faut un équipage, plusieurs témoins, il faut que l'appareil ait été conformé et validé par la DRIR, etc. Sinon, effectivement, il y a un vice de procédure. Donc, vous voyez, on est à des années-lumière, justement, du policier dont la parole ne peut pas être remise en question, la probité, etc. Voilà.
Lionel Tourtier.
Oui, moi, je voudrais donner un éclairage un peu plus en profondeur. Je souscris à tout ce qui a été dit. Mais je crois qu'il faut regarder la situation, vous l'avez évoqué, la situation sociale de ce pays. En fait, on est un pays qui est aujourd'hui en crise et qui a de profondes angoisses. Et en fait, la violence, elle résulte du fait que vous ne savez pas traiter l'angoisse et que le politique, depuis 20 ans, ne sait pas très bien par rapport à la désindustrialisation. On a réaffecté beaucoup d'emplois dans des activités tertiaires à faible valeur ajoutée, donc à faible rémunération. On a eu des politiques du logement qui ont fait que les gens étaient obligés de s'excentrer, donc avec des problèmes de transport, de pouvoir d'achat. Et donc, si on ne prend pas en considération qu'il y a un vrai problème social dans ce pays, et qu'on joue l'autisme, d'ailleurs, on veut l'ignorer, voire le mépriser, comme ça a été au début des Gilets jaunes, il est clair que vous avez des réactions. Mais vous avez des réactions qui, au départ, n'étaient pas agressives, qui étaient revendicatives. Ce qu'il y a, c'est qu'on a des forces d'extrémistes dans ce pays qui procèdent avec un sophisme. C'est-à-dire, le pouvoir est forcément violent, la police est le vecteur du pouvoir, donc la police est violente. Et voilà, à partir de ce moment-là, on fait des amalgames Et on ignore complètement le rôle social d'accompagnement que peuvent avoir les forces de l'ordre dans plusieurs missions. Hein. On les agresse, et on les agresse parce que quelque part, c'est une dynamique qui est en train de se construire de déstabilisation de l'ordre républicain. C'est pour ça qu'en tant que citoyen, moi, je réagis. Parce que je crois qu'il y a le problème de l'organisation des forces de l'ordre, etc. Mais il y a aussi un problème social extrêmement grave et qui ne risque pas de s'arranger. Et donc, ça veut dire que les tensions entre le pouvoir, la police et les citoyens, ils sont plutôt, selon moi, devant si on ne prend pas des mesures que derrière.
Et dans les changements aussi, il y a également le fait que la population française connaît une grande diversité, y compris dans les couleurs, et que la police essuie régulièrement l'accusation d'être raciste, d'opérer des contrôles aux faciès, etc. etc. Vous-même, vous l'accréditez d'une certaine manière dans votre livre. Colin Pucheux, à cette accusation qui revient en permanence que la police serait raciste.
Écoutez, si je prends mon cas personnel, hein, parce que, en tant que policier, moi j'ai été élevé par des parents plutôt de gauche, avec des valeurs plutôt tournées vers le social, de tolérance, voilà, j'ai pas découvert Charlie Hebdo lors des attentats, moi. Hein, et du coup, j'ai intégré la police nationale française en me disant c'était à l'image de ce que j'espérais que ce soit, donc quelque chose d'irréprochable, déontologique en tout point. Faut pas oublier que, pour répondre à votre question, faut pas oublier que la police est constituée d'hommes, qu'elle est donc, plurielle, que chacun a ses convictions, ses croyances. Le tout, c'est de pas les exposer quand on revêt l'habit de lumière. On a bien sûr qu'il y a des policiers qui peuvent avoir certaines idées qui sont peut-être pas en adéquation avec ce qu'on attend des valeurs de la République ou d'un fonctionnaire de police, mais du moment qu'elles restent au vestiaire, ces idées, peu importe. L'idée, c'est que quand on revêt l'habit de lumière, on est un représentant de l'État et qu'à partir de là, on doit faire abstraction de toutes ses convictions religieuses, politiques ou associatives. Et dans l'exercice de mes fonctions, j'ai déjà pu observer des comportements qu'on pourrait caractériser de déviants, bien sûr, parce qu'un policier reste un homme. Mais il n'y a pas plus de policiers déviants que de boulangers déviants ou que de fleuristes déviants, sauf que dès lors que vous avez un pouvoir coercitif, ça se voit plus. Hein ? Après, vous parlez de contrôle aux faciès. Faut savoir que lorsqu'on contrôle des individus, c'est toujours dans le cadre d'une réquisition. Enfin, en général, c'est soit parce qu'il y a commission d'une infraction, soit parce qu'on a une réquisition qui nous est délivrée par le procureur de la République et qui nous permet de contrôler en un lieu donné et sur un créneau horaire donné toute personne qui transite dans ce lieu. Et évidemment, parce que les statistiques le montrent ou parce que tout ce que vous voulez, on va plutôt s'orienter vers des personnes qui présentent ce que nous, on pense être les stigmates de l'indélinquance, donc des signes extérieurs d'appartenance, plutôt que vers une vieille dame avec son caddie. Et peut-être qu'on passe à côté de 15 kilos de résine de cannabis dans le caddie, peut-être. Mais c'est vrai que j'appellerais pas tant ça du délit de faciès que du bon sens dans l'exercice de nos fonctions. Et vous voyez, ma réponse n'est pas totalement... elle est nuancée dans le sens où, je vous dis, un policier reste un homme, et moi, du moment que ses idées, aussi nauséabondes soient-elles, restent au vestiaire, moi, ça ne me dérange pas. C'est du moment que, voilà, il faut être neutre.
– Madame Manoir ?–
Effectivement, j'acquiesce sur le discours, mais effectivement, moi, je ne pense pas au quotidien que ses idées restent au vestiaire. Moi, ce sont les... j'ai, par exemple, assisté à un conseil de discipline il y a environ 3 semaines, et on a révoqué une fonctionnaire de police parce qu'elle avait rédigé en 2014 2 tweets pro-palestiniens. Elle ne les avait pas rédigés d'ailleurs, elle les a retweetés en fait. Et comparativement à ce que j'observe sur le terrain, si vous voulez, j'observe encore une autre, malheureusement le même problème que celui que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est un problème de régulation. C'est-à-dire qu'il y a une disproportion étonnante entre ce qu'on va rechercher aujourd'hui, c'est-à-dire notamment dans les critères d'application de la laïcité, on va appeler ça, pour ne pas appeler ça de la discrimination très clairement, c'est-à-dire que après, par exemple, l'affaire Michael Harpon, les propos de Castaner ou du ministre de l'Intérieur, pardon.
Michael Harpon, c'est à la préfecture de police.
Tout
de
à
Paris,
fait.
Ce fonctionnaire qui a regardé.
Il nous a donné la définition de ce que serait un signe de radicalité religieuse incompatible avec l'exercice des fonctions de policier. Donc, ce serait un refus de l'autorité ou une forme de rejet de l'autorité hiérarchique. Quelques poils de barbe sous le menton, une pratique accrue peut-être de la religion musulmane pendant la période du Ramadan. Et à côté de ça, au quotidien, effectivement, dans les équipages de police, et d'ailleurs, je vous annonce ce soir que, à titre syndical, on a récupéré un certain nombre d'enregistrements de patrouilles dont les captures a été effectuées justement en dehors de, on va dire de façon discrète, parce que en réponse justement aux propos du ministre de l'Intérieur qui a expliqué le 5 février dernier à l'antenne de vos confrères de France Inter qu'il n'y avait pas de racisme anti-maghrébin ou anti-musulman dans la police. Donc lui, il l'a affirmé comme une certitude. Donc nous allons nous exercer à lui démontrer le contraire justement. Et je pense qu'il le sait très bien dans le fond. Si vous voulez, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui effectivement le gouvernement a besoin de la police. Donc tout est fait pour que le ministre de l'Intérieur ne se mette pas justement la police via les syndicats majoritaires à dos, hein, parce que les syndicats de police sont politisés de toute façon. J'ai pas de problème particulier avec l'un ou l'autre, mais pendant l'entre-deux-tours des élections présidentielles, le syndicat Alliance a donné une consigne de vote favorable à Emmanuel Macron. Bon, effectivement, est-ce que c'est bien le rôle d'un syndicat professionnel, de fonctionnaires d'ailleurs, hein, c'est-à-dire, et de police de surcroît, dont quand même les attentes en matière de neutralité et de réserve sont plus importantes que dans d'autres corps, que de donner des consignes de vote au moment des élections présidentielles. Donc vous voyez, à un moment, on voit bien qu'il y a un usage du droit, du règlement administratif à géométrie variable, c'est-à-dire que, bon, globalement, et peut-être légitimement, vous êtes pro-palestinien, vous êtes viré si vous l'exprimez, mais aujourd'hui, dans la police, et j'assume pleinement mon propos, quand vous êtes raciste, anti-noir, anti-arabe, anti-musulman ou anti-ce que vous voulez, et parfois même antisémite d'ailleurs, il y a une forme de tolérance que je ne m'explique pas. Il y a un exemple très précis hein, du tribunal du TGI de Rouen hein, qui date d'environ un mois, qui le démontre très bien. Les extraits audio ont été mis en ligne par certains de vos confrères où les mots, si vous voulez, et pendant des mois et des semaines entières, Bougnoul, Bico, Juif, Youpin, etc. Il y a une déferlante de haine raciale justement sur des échanges entre les fonctionnaires de police. Et si vous voulez, moi, je ne m'explique pas la faible réaction. On n'a eu qu'un communiqué rapide pour dire que je crois que le fonctionnaire qui avait signalé les faits, qui lui est d'origine antillaise, a été déplacé. Donc moi, si j'avais été ministre de l'Intérieur, ce qui n'arrivera jamais, donc je peux me permettre justement, moi, j'aurais déplacé les 10 personnes responsables justement des propos et j'aurais laissé la victime en place justement au TGI de Rouen.
Là, on a fait le contraire. Je vous interromps, on fait une pause, on se retrouve juste après. Que fait la police? On reprend notre débat avec Nicolas Pucheux, qui est secrétaire départemental adjoint Paris UNSA Police, avec Noam Anouar, délégué du syndicat Vigipolice, avec Lionel Tourtier de l'association Uniforme en danger, et avec Jean-Pierre Colombiès, ex-porte-parole de l'Union des policiers municipaux nationaux indépendants, pardonnez-moi, et ex-commandant de police par la même occasion. J'allais vous donner la parole avant qu'on s'interrompe.
Oui, Jean-Pierre. Parce que beaucoup de sujets ont été évoqués comme ça, c'est parti un petit peu avec beaucoup de flèches et beaucoup de pistes de remarques, de réflexions. Pourquoi aussi on en est à un point où la perception de la police est quasi impossible pour une citoyenneté? Mais tout simplement parce qu'elle ne les voit plus. On a supprimé ce qui faisait le lien, un lien quotidien, ce qu'on a appelé très globalement la police de proximité. Bon, j'ai connu une époque, pas si éloignée que ça, où il y avait des inotiers dans les quartiers qui n'étaient pas là que pour mettre des PV, pas là que pour interpeller les gens. Et il y avait un lien concret, permanent, entre l'institution, le service public, l'État et la citoyenneté, tout simplement. Les citoyens, quels qu'ils soient, quel que soit, j'ai envie de dire, leur couleur, leur origine. Et pour aller, par contre, sur l'idée de la crispation entre les étrangers et la police, bah, je suis désolé, mais on ne peut pas faire l'impasse sur l'époque sarkozyste, qui a été particulièrement redoutable lorsqu'il s'agissait de montrer ses muscles par rapport au Front National, justement. Et il fallait démontrer que la politique anti, je dirais, étrangers en situation irrégulière était efficace, où des instructions étaient données, de ratisser très large au travers justement des réquisitions de police couvertes par l'ensemble des parquets sous l'autorité des préfets, où il fallait impérativement arrêter des dizaines et des dizaines de milliers d'étrangers pour en expulser à minima certains, pour justifier cette politique de bras musclés. Donc ça, c'est catastrophique pour l'image justement qui va en découler. Alors bon, bien évidemment, si en plus de ça, vous assurez la promotion des gens les plus zélés en cette matière, ben vous arrivez à une situation relationnelle particulièrement crispée.
Lionel Tourtier.
Oui. Je souscris à l'importance de la police de proximité. Je dirais que d'une certaine manière, la police municipale joue ce rôle aujourd'hui, parce que c'est le maire hein, qui est responsable de la sécurité. Et de plus en plus, moi, je rencontre des policiers municipaux et il y a un contact beaucoup plus social. Hein, bon. Il y a un autre aspect par contre.
Excusez-moi, mais elle n'a pas les mêmes obligations.
Non, je suis d'accord. Mais oui. C'est quand même dans la cité, dans le village, pour autant qu'il y ait des policiers municipaux, c'est quand même un lien où on peut discuter, ils font de la prévention, ils connaissent les ados qui chahutent un peu, etc. Donc...
Mais j'aimerais qu'on s'arrête justement sur cette police municipale, et notamment la police municipale armée, qui gagnerait, paraît-il,
oui,
mais de plus
ça,
en plus du terrain.
Autre problème, parce
et je me demandais, est-ce que la police nationale...
Soit armée, c'est parce que les policiers deviennent des cibles, quels qu'ils soient. D'ailleurs, policiers nationaux ou policiers municipaux, ça devient des symboles. Et dès lors qu'effectivement, on les expose à de plus en plus de situations critiques, qu'ils aient la capacité de se défendre, enfin, regardez, hein, combien de policiers sont renversés sciemment par des voitures, etc.
Donc, il y a un moment donné... Clarissa Jean-Philippe, au moment des attentats de Charlie Hebdo, par exemple.
Je veux dire, c'est pas illogique qu'on puisse donner aux forces de l'ordre, à un moment donné, les moyens de se défendre avec toutes les contraintes des dispositions sur la légitime défense.
Mais vous savez aussi que la police française est une des polices qui tue le moins. C'était tout à son honneur, mais plus vous l'armez et plus vous portez, plus il y a de risques qu'on lui tire dessus et qu'elle réplique.
Oui,
et
c'est vrai aussi pour la police municipale. On est quand même aux prises avec le terrorisme. Alors peut-être qu'on l'a mieux géré depuis 5-7 ans qu'on l'a fait, mais rien ne dit qu'on ne va pas avoir de nouveaux problèmes de cette nature-là et que les forces de l'ordre, notamment la police, la gendarmerie et la police municipale, voire les SVP qui circulent, etc., ce sont des symboles. Ce sont des symboles qui, s'ils sont touchés, et s'ils n'ont rien pour se défendre, on les envoie au casse-pied.
Mais j'aurais l'avis des policiers sur ce sujet, le fait que la police municipale armée gagne du terrain, qu'en pense la police nationale ?
Les avis sont partagés parce qu'en fait, on a tout un tas de missions dites indues dont on aimerait bien pouvoir se dégager pour assurer nos véritables missions régaliennes. Mmh. Et si la police municipale vient nous prêter main forte sur ces missions que nous considérons comme étant des missions indues, des tâches indues, alors là, bien sûr, on souscrit totalement à cette idée. Il ne faudrait pas, en revanche, que les polices municipales obtiennent les mêmes prérogatives de manière totale et inconditionnelle que celles que nous avons aujourd'hui. Je voulais juste revenir sur ce qui avait été évoqué, juste un petit point sur la fracture police-population, et je souscris parfaitement à ce qui a été dit par M. Colombias. Moi, j'étais déjà dans la police à cette époque, et je la date au moment effectivement, où M. Sarkozy est arrivé au pouvoir, en mettant en place cette politique du chiffre, qui a entraîné une véritable fracture politique.
Président de la République ou déjà ministre de l'Intérieur ?
Ah, déjà ministre de l'Intérieur, cette fracture police-population, où effectivement on était soumis à des quotas, à de véritables quotas.
Absolument.
Notamment des quotas qui ont pu stigmatiser un certain pan, une certaine frange de la population, puisque notamment des gens issus de l'immigration en situation irrégulière. Et politique du chiffre alimentée et encouragée par la mise en place de primes clivantes et qui sont toujours d'actualité parce que c'est ça aussi la grosse hypocrisie d'aujourd'hui, c'est qu'on dit on en est revenu de la politique du chiffre. C'est faux, les quotas existent toujours, on applique une politique mercantile alors qu'on traite de l'humain, on ne traite pas des objets, on traite de l'humain. Comment, quand vous partez en patrouille, seule l'initiative devrait être le maître mot. Or là, vous partez en patrouille avec des objectifs qui vous sont fixés, des objectifs chiffrés, et qui créent de véritables clivages au sein même de la police, puisque ces objectifs, s'ils sont atteints, sont récompensés par des primes au mérite, individuelles ou collectives. Et ça, c'est un véritable problème, et ça a engendré, généré une véritable perte de sens au métier également, qui conduit notamment à ces extrémités, à ces drames, que sont les suicides dans la profession.
Noam Anouar.
Alors moi, sur la question que vous avez posée sur la police municipale, alors effectivement, c'est bien que vous la posiez parce que, à titre personnel, moi, j'envisage de me réorienter justement vers la police municipale dans la mesure où je considère en fait qu'elle représente l'avenir justement de la police en général, la police de proximité, notamment de ce qu'on appelle la police secours. Je crois qu'on est, quand on observe la situation plus globalement, on est en fait dans une sorte d'américanisation en fait de la société française où finalement l'ensemble des services sont privatisés, sauf On a également un certain nombre de dispositifs de sécurité. C'est la SNCF a sa propre police, la RATP aussi. Donc on a une généralisation comme ça de tous les services de la privatisation de ce qui était autrefois des services publics. Et donc je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on a, de toute façon, on observe une disparité entre les territoires. C'est-à-dire que selon que vous ayez un maire qui décide d'investir massivement sur la sécurité, la vidéosurveillance ou la police municipale, sur le village d'à côté ou la ville d'à côté, si le maire n'investit pas, vous avez quand même un déséquilibre du point de vue justement des services publics, parce que l'État a déserté ces zones. Moi, la police secours aujourd'hui en commissariat, c'est quelque chose qui a été totalement démantelé et abandonné. C'est-à-dire que moi, il n'est pas rare que parfois que j'ai pu faire appel en tant qu'usager à la police nationale en disant ben voilà, il y a un véhicule qui gêne, qui est mal garé à tel endroit, qui bloque la circulation, et qu'on me réponde ben, on a un seul équipage qui est déjà mobilisé sur un différend conjugal ou sur une affaire plus importante et on ne pourra pas se déplacer. Et donc, dans ces moments-là, vous dites effectivement ben, la seule issue, c'est que le maire ait pu organiser une police municipale. Après, moi, je ne la mets pas directement en concurrence avec la police nationale. Je ne considère pas que ce soit des gens gênants, ce sont des partenaires de sécurité au quotidien. Et effectivement, il ne marche pas sur nos plates-bandes. Mais quelque part, je pense que tout est fait. En réalité, le prisme de la création des polices municipales, des autorisations qui leur sont données justement pour pouvoir posséder de l'armement, et c'est absolument nécessaire, à mon sens, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui de menaces terroristes et de menaces diverses, c'est qu'effectivement, à terme, la police municipale va remplacer en fait la police secours de la police nationale. Je pense que la police nationale va conserver ses prérogatives en matière de police fédérale, entre guillemets,
mais c'est-à-dire comme aux États-Unis, renseignement, quoi, la différence entre le shérif et le...
Renseignement, ouais. Intervention, maintien de l'ordre, police judiciaire. Et en fait, je pense que la police secours va être déléguée aux maires et que, comme aux États-Unis, justement, les maires vont devoir rendre compte en matière de sécurité. D'ailleurs, l'exemple le plus frappant, c'est Paris. C'est-à-dire que jusqu'à cette année, on nous expliquait qu'à Paris, les pouvoirs de police étaient... exclusivement révolu au préfet de police, hein, que Paris était la seule ville de France dans laquelle, en tout cas, le maire n'avait pas de pouvoir de police. Il était dessaisi au profit du préfet de police. Et on a créé la police municipale parisienne, justement, cette année. On a démobilisé des effectifs de la préfecture de police pour les rattacher à la mairie de Paris. Et on a créé cette police municipale. Et je crois que c'est quelque chose qui va évoluer partout en France, jusqu'à la disparition, en fait, de la police secours, hein, très clairement.
Jean-Pierre Colombiès ?
Oui, enfin, moi, je fais une analyse qui va dans ce sens-là, avec quelques nuances. Effectivement, on assiste à un appauvrissement généralisé des forces de police dites régaliennes. On le voit au niveau des commissariats. La plupart des commissariats de Paris, Petite Couronne, et en province, c'est encore pire. On pourrait citer des exemples comme Marseille, où il y a une vraie désertification des services de police. La nuit, vous avez une voiture de police secours, ce qui est une aberration absolue. Une fois qu'on a dit ça, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut des policiers partout ou effectivement, est-ce que l'on veut des policiers efficaces ? Est-ce qu'il est absolument nécessaire d'avoir des commissariats partout ? Vous avez des Hauts-de-Seine, par exemple, où il y a une démultiplication des commissariats sur l'ensemble de la zone, mais vous en avez très peu où il y a suffisamment de policiers pour la faire vivre. Ça, c'est un point. Ensuite, quel est l'avenir de la sécurité dans ce pays ? Est-ce qu'on doit tout déléguer aux polices municipales et non seulement aux polices municipales, mais aussi à tout ce qui est, je dirais, alternatif privé ? Et pour moi, c'est un danger. C'est un danger si ça n'est pas contrôlé et si ça n'est pas mis sous tutelle, justement, par les autorités régaliennes, les préfets notamment.
Par l'État. Hein, par la
mais bien sûr, par l'État. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce qu'il y a des bons, il y a des mauvais maires, tout simplement. Si vous avez un maire qui gère sa circonscription en bon père de famille, avec une action de la police municipale cohérente qui va dans le cadre de l'intérêt général, tout va très bien. Maintenant, si vous avez un maire qui considère que sa police municipale est une forme de milice particulière qui va lui rendre service dans des conditions particulières, notamment les élections, je dis attention danger. Attention danger.
Mais
il faut que ce soit sous un contrôle réel. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de policiers nationaux, bon, on va mettre des policiers municipaux et tout va très bien dans le meilleur des mondes. Non, tout ne va pas très bien dans le meilleur des mondes si ça n'est pas sous contrôle, tout simplement. Parce qu'il va falloir se poser aussi la question de savoir quelle sera la relation de ces policiers avec la justice. Aussi. Et ce n'est pas le moindre des débats, parce qu'on parle de la relation police-citoyenneté. Il faudrait aussi parler, à un moment donné, c'est un débat très complexe entre police et justice. Et là, il y a un vrai sujet.
On ne l'abordera peut-être pas aujourd'hui, parce que
c'est très compliqué.
Parce que c'est long et compliqué. Je voudrais juste dire un mot quand même de cette fusion que certains semblent souhaiter entre la gendarmerie et la police. La police absorberait la gendarmerie serait démantelée, vous y avez fait allusion. On le sait, c'est un syndicat de commandants de police.
De commissaires.
Moi, j'ai toujours eu le problème entre les deux. Alors, qu'en est-il ? Est-ce que ce serait souhaitable ?
C'est une ineptie.
Quel intérêt ça pourrait-il avoir ?
C'est une ineptie parce que, encore une fois, il faut essayer de regarder des tendances longues devant et pas simplement derrière. Le développement, que ce soit en France ou dans le pays, c'est qu'on va vers des méga... pôles, des métropolisations, ce qu'on appelle, donc des très grandes villes avec des périphéries, etc. Et par contre-coup, donc, on va avoir des zones périphériques, des zones rurales, qui vont être relativement délaissées. Et si vous regardez la perspective du vieillissement, hein, c'est-à-dire à 2040-2070, on va avoir des zones rurales avec beaucoup de personnes âgées, donc fragiles, donc exposées. Donc comment vous maillez le territoire pour justement assurer un niveau de sécurité dans la métropolisation, hein, qui va être compliqué, et également dans les zones rurales qui sont relativement excentrées, etc. Et donc, pour moi, la gendarmerie, sa vocation, c'est le territoire. C'est là où elle peut, elle a la connaissance intime, elle s'occupe, je dirais, pas simplement que des problèmes de sécurité, elle a aussi un rôle social. Et donc, je pense que fusionner, c'est une aberration. Il faut laisser les deux corps travailler et les spécialiser justement par rapport au développement urbain et par rapport au développement des territoires que l'on pourra avoir, et encore une fois avec le vieillissement, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui on regarde dans les sondages des municipales, la sécurité c'est la première attente. Donc vous êtes avec aujourd'hui 16 millions de retraités avec les pensions de réversion. C'est un électorat qui vote, et c'est un électorat qui veut de la sécurité. Mais cet électorat, il va mécaniquement augmenter avec les démographies. C'est-à-dire qu'on va passer, si vous voulez, avec un nombre de seniors dans ce pays à 2040, parce que c'est là où la tendance monte, et à 2070, où on va avoir un cortège de gens âgés extrêmement important. Et électoralement,
d'où la réforme des retraites. D'où la réforme des retraites.
Oui, enfin, extrêmement important. Donc, les aspirations à la sécurité ne peuvent que croître. Et donc, il faudra bien trouver des réponses par rapport à ces problèmes-là.
Nicolas Pucheux, la gendarmerie
Je ne pense pas que ça puisse se faire. Ça me semble être une hérésie. On n'a pas. Enfin, si, effectivement, quand ils opèrent en zone rurale, on a des prérogatives qui sont similaires, mais enfin, ça reste des militaires, on reste une force civile armée. Nous n'avons pas la même formation. Enfin, oui. Pour moi, de fusionner ces deux corps me paraît être impensable. Voilà.
Jean-Pierre Colombiès.
Oh, c'est une vue de l'esprit, c'est un vieux serpent de mer. Ouais. Chacun veut absorber l'autre. Il faut savoir que la direction de gendarmerie, pendant que nous parlons, développe des directions parallèles avec des spécificités identiques à celles de la police. Ils ne sont absolument pas dans la dynamique de l'absorption d'une quelconque façon. Je veux dire, historiquement, la gendarmerie est très ancienne. C'est une vieille dame, une très vieille dame. Et je les verrais mal se laisser absorber sans rien dire. Ils ont une implantation territoriale qui est considérable. Il est vrai que la police est urbaine et périurbaine, ça c'est évident, j'invente rien. La gendarmerie est très implantée au niveau des territoires, des maillages, et donc au niveau des élus, et des élus, des sénateurs, et de bon nombre de députés. Vous imaginez bien que ni les uns ni les autres vont perdre leur interlocuteur privilégié, et ça en aucune manière.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire en ce moment même? On est en cours d'élaboration du livre blanc de la sécurité, donc qui est censé bâtir la police du 21e siècle. Qu'est-ce qu'il faudrait préconiser? Qu'est-ce que vous imaginez qu'il faudrait instaurer, changer, pour que ça se passe mieux, pour que les Français aient enfin confiance dans leur police, ou en tout cas que le climat soit moins délétère entre la police et la population?
J'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être faire un résumé de 500 pages et éventuellement du livre blanc déjà pour pouvoir prendre le temps de l'exposer. C'est-à-dire qu'on ne saurait pas par où commencer. Les problèmes sont tellement nombreux et en fin de compte, les problèmes sont aussi des problèmes endogènes. C'est-à-dire que globalement, sur cette fusion justement des corps police-gendarmerie, elle est presque effective. C'est-à-dire que les gendarmes étaient autrefois au ministère de la Défense, ils ont été rattachés au ministère de l'Intérieur, au plan administratif. Donc on travaille tous les deux sous l'autorité justement des procureurs. Donc globalement, il y a un certain nombre de modifications, effectivement, du point de vue législatif et même du point de vue matériel, j'irais à envisager, parce que monsieur parlait tout à l'heure du maillage territorial des Hauts-de-Seine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin, finalement, d'avoir, à certains endroits, de présence physique de policiers. C'est-à-dire que les caméras de vidéosurveillance, justement, qui sont, encore une fois, du ressort des maires, hein, sur les communes, peuvent parfois pallier, justement, à la présence de policiers, à l'implantation de postes de police. On a des dispositifs. Aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est verbalisation sur la voie publique, notamment sur des communes de Paris et des communes limitrophes, ce sont des dispositifs qui ont été délégués à des sociétés privées. Bon, il y a eu quelques incidents, on a eu quelques conducteurs par-ci par-là qui étaient parfois démunis de permis de conduire, sous l'emprise de stupéfiants, etc. Donc, on a quelques problèmes liés au rodage.
Le contrôle n'était pas vraiment fait.
Effectivement, il manquait l'aval de l'État, c'est-à-dire que entre un salarié et un fonctionnaire qui fait l'objet d'un processus de recrutement pointilleux, d'enquête de moralité, etc. Bon, il pouvait parfois y avoir quelques différences. On ne peut pas généraliser, bien entendu. Mais on se rend bien compte que bon, tout ça, normalement, ça doit pouvoir créer, en tout cas donner de l'oxygène aux services de police. Et actuellement, ce n'est pas le cas. La pré-plainte en ligne, à l'ère du 2.0, la communication via les réseaux sociaux que peut utiliser la préfecture de police, on voit qu'il y a quelque chose, en fait, effectivement, qui est en train de se passer, qui, en théorie, ne devrait pas justement autoriser la diminution des effectifs, mais peut-être justement aux fonctionnaires de police et de gendarmerie, d'ailleurs, de pouvoir se recentrer sur leur mission. Mais là, j'ai le sentiment plutôt du phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on délègue certaines prestations à des organismes privés, on délègue certaines de nos missions aux polices municipales qui sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui sur le territoire. On a la vidéosurveillance, on a les services Internet, les pré-plaintes en ligne, et pourtant j'ai l'impression qu'il y a toujours autant de difficultés sur le terrain. C'est-à-dire que quand je vais déposer une main courante au commissariat, la dernière que je suis allé déposer, c'était 2h30 d'attente, et je n'ai pas compris pourquoi. Quand je suis arrivé, j'ai demandé aux policiers qu'est-ce qui se passe. Il n'y avait personne avant moi, pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps?
En plus d'être policier.
Je ne l'ai pas dit, justement, parce que j'aime bien pouvoir jauger...
Porter plainte tranquillement.
Oui, ce n'est pas nécessaire, je n'ai pas de privilège particulier en tant qu'utilisateur. Et si vous voulez, et au point que c'est presque dissuasif, c'est-à-dire que j'ai constaté des faits il y a peu de temps qui ne me concernaient pas directement, je voulais aller faire un signalement comme ça, on me dit passez, déposez une main courante, et j'ai été dissuadé, je n'avais pas 2h30 à perdre en fait. Vous voyez, donc du coup, il y a tout un tas de choses à repenser sur les missions justement des services de police, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai problème d'efficacité, sauf, pour revenir au premier sujet, en ce qui concerne la répression des manifestants. Mais pour le reste, on est très mauvais.
Nicolas Pucheux ?
Mais déjà, je pense que pour que les rapports s'améliorent entre la population et sa police, il faudrait déjà redonner du sens au métier. Je pense qu'un policier qui est heureux et convaincu de ce qu'il fait, le retranscrit sur le terrain. Il faudrait donc abroger de manière définitive, parce que effectivement, sur le papier, ça a été... ça a cessé, mais en fait, c'est toujours d'actualité. Il faudrait donc abroger de manière définitive cette politique du chiffre, abolir ces primes clivantes qui donnent envie aux policiers de ramener, comme on dit, du bâton, hein, parce qu'on parle de bâton chez nous, pour avoir ces 500 ou 600 euros sur la paie du mois de décembre en fin d'année, parce que c'est ça aussi la réalité, c'est qu'un policier, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi un gilet jaune et on est à 500 euros près, quoi. Donc quand on vous tend 500 euros devant le nez en vous disant « si tu ramènes tant de personnes, on va te les donner », eh bien forcément, ça ne peut que dégrader les rapports entre la population et sa police. Ça ne peut que dégrader. Dès lors qu'on a plus, qu'on laisse plus place à l'initiative, forcément, ça dénature le métier et ça crée une sorte d'aigreur. Ensuite, toujours sous l'ère de M. Sarkozy, il y a une énorme déflation du corps d'encadrement et d'application auquel appartiennent donc les gardiens de la paix. Et cette déflation a aussi engendré le fait que ce qu'on soulignait tout à l'heure, qu'il n'y ait qu'une voiture de patrouille sur un département la nuit, qu'on attend de 2h30 pour une prise de plainte, etc. Il faudrait renforcer les effectifs de police de manière à pouvoir accueillir de manière plus convenable le public, à ce qu'il y ait moins d'attente dans les locaux de police, à ce que quand on appelle pour un tapage, on n'attende pas 3 heures et on ne doit pas repasser 4 ou 5 fois l'appel. Tout ça, ça génère forcément de la rancœur et de la tension de la part de la population vis-à-vis de sa police, évidemment.
Du renoncement même, parfois.
D'ailleurs. Et des fois, de la résignation.
Ouais, je crois qu'il y a deux séries de mesures. Il y a des mesures de court terme et puis des mesures de plus long terme. Les mesures de court terme, c'est dans un pays qui a les contraintes que l'on connaît, vous dépensez 25 euros pour les forces de sécurité pour 1000 euros. C'est-à-dire, en fait, c'est 0,85% du PIB. Donc la première chose, c'est de donner des moyens supplémentaires en équipement, mais également en revalorisation salariale, parce que tous nos amis, là, ils font des heures supplémentaires plus ou moins payées, ils ont forcément des contraintes, on l'a vu, certains sont obligés de payer leur transport en commun, etc., enfin, ou leur parking, enfin, je veux dire, il y a des choses aberrantes, quoi.
Ou leur équipement.
Ah oui, déjà, sérieusement, on paye son propre équipement.
C'est-à-dire que l'équipement qui est fourni par l'administration est tellement obsolète. On vous donne des chaussures qui sont tellement rigides qu'on dirait du carton, aller courir derrière, donc on s'achète nous-mêmes nos chaussures, on s'achète nous-mêmes nos ceinturons, enfin, en fait, tout ce qui est fourni par l'administration est tellement inconfortable, c'est certain que ceux qui les ont dessinés et conçus ne les ont jamais portés, c'est certain, et qu'on est obligé d'avoir recours à nos propres deniers pour s'équiper. Donc déjà, ça commence par là, et le confort au travail, ça commence par là.
Et donc, il faut, et c'est pour ça que c'est un débat citoyen, quelle est la place de la police et qu'est-ce qu'on veut attribuer comme moyen. Donc moi, personnellement, je pense qu'au sein de notre association, on veut qu'il y ait des revalorisations, on veut qu'il y ait des statuts qui soient, je dirais, améliorés, je pense au SVP, par exemple, etc. Donc, premièrement, des moyens supplémentaires, et c'est un choix de société. Parce que si on laisse les choses aller en pire, de toute manière, ça va continuer de se dégrader. Et les vocations pour entrer dans les forces de l'ordre vont diminuer en tant que telles. Parce que finalement, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Deux, je pense qu'il faut protéger nos forces de l'ordre et les familles. Et c'est-à-dire qu'il faut que lorsqu'on fait des agressions contre les forces de l'ordre sciemment, il y ait des peines exemplaires qui soient décidées pour avoir un effet dissuasif, parce qu'aujourd'hui, il y a une crise de l'autorité. Vous pouvez rentrer avec votre voiture, donc un peu lissé au croisement, ça n'a pas l'air de poser de problème à la justice, etc. Donc, il y a un problème spécifique, je crois, c'est le problème des mineurs, parce que c'est un sujet de fond. Comment on aborde ce problème-là, avec les exceptions de minorité, avec des mineurs qui n'ont pas d'origine, ni de rien, qui sont, je dirais, qui posent un vrai problème au niveau du suivi.
Vous voulez dire migrants, réfugiés, dont on ne sait pas ni l'âge.
Oui, c'est-à-dire des enfants, si vous voulez, dont on ne connaît pas la nationalité, donc on ne connaît pas le nom, qu'on met dans des structures carcérales dédiées, et qui finalement n'arrivent pas du tout à s'intégrer, qu'on relâche dans la nature sans aucune formation ni rien, et qui participent de cette délinquance, qui d'ailleurs rejoint un peu ce problème de l'image qu'on a de la délinquance issue de la diversité, etc. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'on le voit à Paris, on cite souvent l'exemple des petites bandes de Marocains qui sont jeunes, sur lesquels on n'a pas de paix. Ça caractérise une situation, si vous voulez. Donc, si on n'arrive pas à régler ces problèmes-là… –
Ça n'a pas de rapport avec la police, là.
– Oui, j'allais vous dire, quel rapport avec la police ?–
Ça n'a pas de rapport avec la police. – Le rapport avec la police, c'est qu'on laisse des foyers de délinquance sur lesquels la police n'a pas de marge de manœuvre, si vous voulez. Elle les arrête, mais ils repartent. Et le citoyen ressent l'insécurité en permanence et il considère que la police ne fait pas son boulot, etc. Donc, il y a des mesures de court terme, et je voudrais rajouter, il y a des mesures de long terme, c'est que le numérique va beaucoup impacter notre société. Ça pose des problèmes, y compris de démocratie. Donc là, je vous renvoie à plusieurs ouvrages. Et que la réflexion qu'on devrait avoir dans un deuxième temps, c'est comment on repositionne cette problématique de sécurité de force de l'ordre dans une ère qui va être digitalisée et pour laquelle les rapports vont forcément être transformés.
Jean-Pierre Colombiès.
Oui, je vais essayer d'être synthétique par rapport justement au livre blanc. Je n'ai pas lu 500 pages, c'est assez rédhibitoire. Je ne l'ai pas encore lu. Mais bon. Là où je veux, enfin pour résumer les choses, ce qui manque surtout, c'est quelqu'un à un moment donné qui réfléchisse et qui raisonne en termes d'intérêt général et pas simplement en termes propres à se valoriser par rapport à une bonne idée qu'il aurait eue dans un certain bureau du ministère. Car ça, on en crève. On en crève depuis plus de 20 ans où chaque ministère se sont succédés les uns aux autres avec chacun l'idée lumineuse de créer enfin le dispositif qui serait le plus efficace. On a eu la police de proximité, on a eu la police de résultat, on a eu les zones prioritaires c'est un blougi-boulga d'idées très mauvaises pour la plupart, en tout cas pas cohérentes. Qui fait que, là encore, et le flic perd le sens de ce qu'il fait et la citoyenneté ne le perçoit pas, ne sait plus ce qu'il fait. Il faudrait, pour aller vraiment dans une idée simple, véritablement revenir au bon sens, à la cohérence et oublier simplement que le flic n'est pas qu'un élément répressif de la société, mais il doit être, ce qu'il a toujours été d'ailleurs, un interlocuteur. Les polices municipales, ou plutôt la police nationale, n'existent pas depuis très longtemps. Elles existent depuis 1941. Avant, c'était déjà des polices municipales. On a conservé ce modèle-là, qui est très probablement perfectible. Comment doit-il évoluer? Je pense qu'effectivement, il y a plein de paramètres qui doivent être pris en compte. La digitalisation, mais pas que ça. Véritablement, et j'en reviens à mon dada qui est le judiciaire, la chaîne judiciaire, parce que là, véritablement, il y a un écueil. Il y a une vraie problématique en termes d'action policière et de réponse judiciaire. Si on ne s'attaque pas à ça, c'est comme si on pédalait dans le vide. Parce que véritablement, plus personne ne sait ce qu'il doit faire.
Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.